Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. C'est une émission exceptionnelle que je vous propose ce soir, en direct, avec un écrivain rare à la télévision, puisque cela fait plus de 20 ans qu'on ne l'y a ni vu, ni entendu. C'est une femme de silence dans un monde de bruit. Bonsoir Yasmina Reza.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous recevoir ce soir sur le plateau de La Grande Librairie. C'est un privilège que vous nous accordez.
Je vous remercie beaucoup, oui, c'est très, une invitation très généreuse. Qui me fait très plaisir.
Nous allons parler de beaucoup de choses ce soir, et on a le temps, 1h30, on parlera de vos livres traduits en 35 langues, de vos pièces de théâtre jouées partout dans le monde, art, conversation après un enterrement, trois versions de la vie, ou encore comment vous racontez la partie, sont devenus des classiques, vos romans, me semble-t-il. Voilà, je vais livrer quelque chose de personnel, on va faire d'ailleurs, je pense, une émission assez personnel, parce que je vous lis depuis très longtemps, comme beaucoup des gens qui nous regardent ce soir. Et il me semble que vos romans, à côté de vos pièces de théâtre, révèlent, Yasmina Reza, une perception extraordinairement fine de ce qu'on pourrait appeler l'ambiguïté des rapports humains. Yasmina Reza excelle à mettre des mots sur les choses les plus intimes, ces choses qu'on ne peut jamais vraiment partager et qui nous rongent, la solitude, la fatigue, les ressentiments, que ce soit d'ailleurs au sein du couple ou de la famille. Serge, le nouveau roman de Yasmina Reza, paraît aux éditions Flammarion. C'est un roman qui évoque la famille, qui évoque le couple, la mémoire et le devoir de mémoire. Tout cela, nous allons l'évoquer. Nous sommes ensemble pendant 1h30 pour parler de votre œuvre. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, Yasmina Reza, deux journalistes et écrivains nous rejoindront, Pascal Robert-Diard et Philippe Ridet. Ils ont tous les deux écrit sur ce que l'on appelle des faits divers, mais de ces faits divers qui restent ancrés de façon indélébile dans la mémoire affective et collective. J'ajoute que c'est vous qui avez souhaité converser avec eux et vous nous direz dans un instant pour quelles raisons. Alors, vous dites souvent, Yasmina Reza, qu'il faut du temps pour bien parler d'un livre. Hein, ce qu'on appelle la promotion, l'actualité immédiate, pas ce que vous préférez. Faut éviter les facilités, les raccourcis, les réductions psychologiques, et le temps, c'est vrai, nous le permet. Un peu plus de 30 ans, dites-moi, sépare votre nouveau roman, Serge, de votre première pièce de théâtre, Conversation après un enterrement, 1987. Vous aviez 28 ans à l'époque. Et en lisant Serge, votre roman, j'ai été replongé dans Conversation après un enterrement. Comme s'il y avait un lien, une passerelle lancée entre votre toute première pièce et puis ce livre, qui est un livre qui reprend, rassemble et expose tout ce qui traversait votre œuvre. Revenons, si vous le voulez bien, à cette époque. Vous souvenez-vous des circonstances qui vous ont poussé à écrire cette première pièce, Conversation après un enterrement ?
Les circonstances de ma vie étaient les suivantes. J'avais commencé comme actrice et j'ai tout de suite compris que ça n'a pas... que ça n'allait pas être un destin agréable pour moi d'être actrice, que je ne pouvais pas être en attente du désir des autres. Et je me suis dit, bon, j'ai un petit talent d'écriture, je vais le mettre à l'épreuve en écrivant une pièce qui m'a semblé plus facile. Je ne pense plus ça aujourd'hui, hein, mais qu'écrire un roman, je n'osais pas écrire un roman. Et j'ai eu l'intuition que je ne devais pas écrire un rôle pour moi, évidemment dedans, que je ne vais pas confondre les deux choses. Et donc, j'ai écrit une pièce avec des personnages qui étaient plus âgés. Et tout de suite, j'ai fait une saga familiale avec, je dois dire, avec le regard que j'ai aujourd'hui, les obsessions qui ont été les miennes depuis 30 ans. Je n'ai jamais écrit rien d'autre que Conversation après un enterrement, sous des formes...
Oui, sous des formes quand même très différentes.
Ouais, hein, mais beaucoup de choses étaient là déjà. Je m'en suis rendu compte en revoyant la pièce à l'étranger, des années plus tard, assez étonnée de voir tant de choses à l'intérieur de cette pièce que je ne trouvais pas si bonne au départ.
Vraiment ? Vous dites ça aujourd'hui parce qu'elle a eu un succès phénoménal, qu'elle a lancé aussi votre vie. J'emploie pas le mot carrière. L'aimez-vous d'ailleurs ce mot
non,
carrière ?
Non, pas du tout, pas du tout.
Mais votre vie d'écrivain,
oui,
de théâtre, puis ensuite de roman, il a fallu près d'une quinzaine d'années pour que vous vous autorisiez le roman. Une désolation, premier roman, tout début des années, fin des années 90. Pour quelle raison d'ailleurs, si longtemps, entre cette écriture théâtrale et puis l'écriture romanesque ?
Parce que j'étais une très grande lectrice dans l'adolescence. J'ai toujours été une très grande lectrice et je lisais très vite des chefs-d'œuvre et je n'avais pas l'audace ni la prétention d'aller sur ce terrain.
Qu'est-ce qui a fait que tout à coup vous vous êtes sentie moins écrasée par les chefs-d'œuvre que vous lisiez et que vous êtes autorisée l'écriture romanesque ?
Alors j'ai commencé pas par l'écriture romanesque, j'ai commencé par écrire des tout petits textes comme Amer Clavier, qui étaient des textes autobiographiques, des photos d'amis, de gens de ma famille.
Des fragments.
Des fragments, hein. Voilà, comme des photos. J'aime bien le rapport avec la photo. Et puis, ça, c'était la première chose que j'ai fait en dehors du théâtre. Et ensuite, j'étais éditée par Richard Ducousset, qui, lui, me poussait beaucoup à écrire... pour ce qu'on appelle la littérature tout court, bien que le théâtre fasse partie de la littérature. Et puis un jour, j'ai osé, mais c'était longtemps après.
Vous en parlez comme si on vous avait forcé la main.
Non, on ne m'a pas forcé la main, mais c'est vrai que ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais je n'avais pas l'audace de le faire.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un sujet sera aiguillé vers la forme du théâtre ou vers celle du roman ?
Non, ça, je ne peux pas. On me pose souvent cette question, j'en sais rien. Et je crois, finalement, pour être très honnête, que ça ne vient pas du sujet lui-même, ni rien. Ça vient de la circonstance de ma vie. Est-ce que j'ai envie de voir du monde ? Est-ce que j'ai envie d'être un être social ? Dans ces cas-là, je m'oriente vers le théâtre. Et si j'ai envie d'être dans la solitude, moi, je suis une personne assez solitaire en réalité, je m'oriente plutôt vers le roman. C'est intuitif, ça n'est pas que j'ai l'idée d'une pièce ou que j'ai l'idée d'un livre. C'est un désir qui est annexe.
Quand je disais qu'il y a un lien entre la première pièce et le nouveau roman, à 30 ans d'intervalle, est-ce que vous le sentez de la même manière que le lecteur ? Et j'ai l'impression que beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir et qui liront Serge, ou qui l'ont déjà lu, se disent qu'effectivement, nous avons là une fratrie de trois qui se délite, se déchire, se réconcilie, s'engueule, se reproche, et puis finalement s'en veut, mais en même temps s'enferme.
Oui, il y a énormément de points communs et je dois dire que je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit.
Oh, non, franchement.
Non, je vous jure, c'est vrai. Non, je ne suis pas là pour mentir. Non, vraiment. C'est incroyable parce que je me suis rendu compte qu'il y avait deux frères et une sœur,
oui,
qu'il y avait le père mort, brutal, il y avait la mort qui rôde, comme dans Serge, il y avait le...
Et la mort qui libère, hein, presque, le pouvoir d'engueulade.
Je suis pas sûre que la mort, que le pouvoir d'engueulade a besoin d'être libéré par la mort.
Bah pourtant,
je crois qu'il est la faculté d'engueulade est assez vite arrivée chez moi, ouais, dans tout ce que j'écris, sans qu'on ait besoin d'un truc mortifère à côté. Mais
même si c'est après l'enterrement du père dans la première pièce, et puis après l'enterrement de la mère dans le roman, que
oui, j'enterre aussi des gens. Ouais. Non, il y a énormément de points communs. Oui, je ne saurais pas dire pourquoi, comme ça, maintenant, arrive ce livre qui ressemble à ma première pièce. Et
alors
moi,
je
me penche pas tellement. C'est aussi pour ça que je n'aime pas beaucoup la promotion, parce qu'on est obligé de parler de soi, ce que je n'aime pas du tout faire, et que je ne vois pas surtout l'intérêt de le faire. Et de parler de mon travail est une chose difficile pour moi, parce que je ne me penche pas dessus. Je réfléchis pas sur ce que je fais et j'ai toujours peur d'être parasitaire dans mes explications, au lieu d'éclairer, de parasiter.
Que le commentaire, oui, vienne nuire en réalité,
oui,
à ce que vous avez écrit.
Oui.
Mais ça, nous, on peut tout à fait le comprendre. Mais nous, lecteurs, vous concevez que nous ayons une admiration et que de l'admiration découle une curiosité d'ailleurs enthousiaste. pour comprendre.
C'est gentil de le dire comme ça. Oui, je le comprends de la part du lecteur, mais à mon avis, mes livres suffisent.
On va faire une interview de lecteur, justement, si vous voulez bien.
D'accord.
Justement, tiens, si on repart du côté du passé, il y a eu conversation après un enterrement, et puis il y a eu art en 1994. Et art racontait également ce moment où, non pas trois frères, mais trois amis extraordinairement liés depuis longtemps, presque des frères, tout à coup se chamaillaient. Se déchiraient, eux aussi, par la grâce de quelque chose qui vient de l'extérieur, en l'occurrence l'achat d'un tableau blanc, à liseré blanc, si la mémoire est bonne, entièrement blanc. Pour quelle raison cette idée, cette envie de mettre en scène le moment où tout bascule dans ce qui est supposé nous rassurer, famille ou amitié, pourquoi est-ce que cela vous obsède autant? Le savez-vous?
L'endroit où tout bascule?
Oui.
Parce que c'est au cœur même de ce qui m'intéresse dans l'écriture. C'est-à-dire, je vais répéter quelque chose que j'ai dit, mais qui me paraît très fondamental, qui est que moi, je crois à l'empire des nerfs.
L'empire des nerfs?
Je crois que l'empire des nerfs, c'est ce qui nous gouverne. Je ne crois pas qu'on soit gouverné par la raison. Je crois qu'on est gouverné par les nerfs. Je crois que même la morale s'arrête là où commencent les nerfs. C'est-à-dire nos impulsions, notre nervosité, nos impatiences, nos injustices, ce qu'on peut supporter physiquement ou pas. Et toutes les paroles édifiantes s'écroulent quand arrive l'empire des nerfs. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est là où s'arrête la civilisation dans l'être. Et je traque ça dans tous mes livres. Et tous les personnages sont peu aptes à la sagesse, en tout cas, sur une certaine durée.
Diriez-vous que la sagesse, pour reprendre votre mot, est une fausse valeur, quelque chose que l'on nous vend, mais qui, face à l'empire des nerfs, ou face au temps, qui est l'autre grand sujet hein, de votre œuvre, le temps qui passe et ce que nous en faisons, et qui tout à coup rend absolument vaine toute forme de raison, mais aussi de sagesse, d'expérimentation, d'expérience?
Alors, le mot sagesse, je ne sais pas si c'est celui que je choisirais. Je dirais plutôt que la vertu est une fausse valeur qu'on nous vend en permanence, surtout ces derniers temps, et qu'elle est, enfin pour moi, elle est très suspecte, cette vertu qu'on nous vend, parce que l'homme étant l'homme tel qu'il est pour de vrai, est en permanence en prise avec des démons, des penchants sombres, des penchants violents. Et cette lutte permanente, c'est ça qui fait la beauté de l'homme pour moi. Ça n'est pas la pensée vertueuse, ni la pensée édifiante. C'est facile d'avoir une pensée vertueuse. Et un discours vertueux, il n'y a rien de plus simple. Par contre, lutter chaque jour, travailler sur soi, sans forcément y parvenir. Mais c'est ce travail que je trouve très intéressant. Et j'ai peur qu'il soit trop édulcoré, qu'on ne le voit pas à l'œuvre, dans la volonté d'être dans la vertu, d'être dans la... Enfin, vous dites la sagesse, mais...
Vous dites ce qui est édifiant, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois la littérature édifiante, qui est une espèce de roman à thèse ou de bien-pensance.
Oui, c'est ça? Oui, bien sûr, la bien-pensance, évidemment, mais être du bon côté du manche, l'écrivain qui est du bon côté du manche, qui a quelque chose à dire, qui va améliorer l'homme. Moi, je ne crois pas du tout que la littérature soit là pour... améliorer quoi que ce soit, ni même pour réorganiser le monde.
Mais alors pourquoi est-elle là, si elle n'est pas là pour ça?
Je peux parler que pour moi.
Oui, pour vous.
Je peux parler que pour ma littérature, qui est une petite chose. Mais moi, je crois qu'on met sur pied une petite histoire, un petit monde, pour critiquer l'existence. Voilà ce que je fais. Ma démarche, moi, c'est critiquer l'existence. Ce n'est pas raconter des histoires, ou ce n'est pas réorganiser les choses, ou vouloir que le monde soit meilleur. Pas du tout.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de critiquer l'existence, et qu'est-ce qui vous la donne encore?
Je crois que j'ai toujours eu envie de critiquer l'existence. J'ai toujours eu envie de me remettre en cause. J'ai toujours eu envie de... Je n'ai jamais tenu ce qu'on m'enseignait pour acquis. Toujours chercher à savoir si c'était juste, si c'était vrai, si c'était...
Donc au départ, chez vous, il y a le soupçon.
Soupçon, oui, mais ce n'est pas un mot que je...
Ah, ce qu'on vient de m'enseigner, ce qu'on vient de me dire, ce que j'ai vu n'est peut-être pas la vérité. Ou ne vaut peut-être pas, c'est ça ?
N'est peut-être pas complètement bien énoncé. C'est ça que je dirais.
D'où la littérature,
oui,
pour reformuler,
oui.
Trouver les mots
c'est
justes.
C'est une reformulation.
Est-ce que vous diriez que vous écrivez pour trouver les mots justes ?
Certainement. D'ailleurs, il n'y a rien que j'aime plus. Quand on fait une phrase et qu'on a un mot qui n'est pas exactement le bon et qu'on va le chercher, on ouvre le dico, on trouve le bon, mais il n'a pas la bonne sonorité. Alors on va en chercher un autre qui va sonner différemment. Et quelquefois, il m'arrive même de prendre des mots qui ne sont pas tout à fait les bons du point de vue du sens, mais qui sont les bons du point de vue musical. Ce qui, pour les traducteurs, est catastrophique.
Mais pour le lecteur, absolument un délice. Car vous rajoutez une chose qui est sans doute très compliquée à faire. C'est le rire, c'est l'humour. Tout ceci serait... très oppressant, tout ce qu'on vient de raconter. Cette critique permanente des choses, l'empire des nerfs, s'il n'y avait pas l'humour. Quel rôle, pour vous, l'humour joue-t-il en littérature, dans votre écriture ?
Alors, je vais corriger ce que vous venez de dire. Je ne rajoute pas l'humour. C'est mon regard qui est ainsi. Je vois le ridicule dans tout, y compris, évidemment, chez moi. D'ailleurs... Je suis la première personne chez qui je vois le ridicule. Je vois, tout peut prêter à rire, tout. Et surtout les nerfs, surtout la violence, surtout... Il y a toujours une portion de risible, de ridicule, ou même d'ironie qui se met. Moi, j'ai cette faculté de le voir et de tout de suite pouvoir la formuler, enfin pouvoir le...
C'est-à-dire que le sens de la formule, cette formule qui fait mouche à chaque fois, arrive d'un coup, d'un jet. Vous ne la retravaillez pas ?
Non, je travaille beaucoup. Non, je ne voudrais pas laisser croire que j'ai des impulsions géniales et que je travaille avec facilité. Pas du tout, au contraire, je suis très travailleuse. Mais en tout cas, a priori, je ne cherche pas à faire rire. Le rire est là, c'est un petit pas de côté, le rire. C'est rien du tout, c'est trois fois rien. C'est drôle parce qu'on reconnaît. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de calembour, c'est pas cette sorte d'humour-là. C'est un humour du petit pas de côté qui fait qu'on prend un peu de distance et qu'on voit les situations. Même on pourrait rire de nous, là. Moi, je pourrais facilement rire de ma situation, là, à m'exprimer gravement sur mon travail. J'en vois le risible aussi.
On va prendre un exemple qui ne sera pas vous exprimant d'ailleurs pas si gravement que ça, ou nous ici en train de parler de littérature parce qu'on croit que la littérature peut nous aider à passer une meilleure soirée ou au minimum une meilleure journée, mais en prenant un exemple très simple, art. Je ne résiste pas à l'envie, puisqu'on parlait de cette pièce, de montrer à nos téléspectateurs ce soir un court extrait. C'est le moment où l'un des personnages, l'un des trois amis, Marc, découvre le tableau que Serge, son ami, vient d'acheter, un tableau blanc sur fond blanc avec des liserés blancs.
Comment s'appelle le peintre Antrios ? Connu ? Très, très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs.
Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios.
Tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs.
J'étais sûr que tu passerais à côté.
Tu as acheté cette merde de 200 000 francs.
Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non content d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu chez l'adepte du bon vieux temps une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde ?
Un peu d'humour, Serge, ris. Ris, vieux.
Voilà, ris, vieux.
Ah oui.
Vous dites que c'est un glissement, un pas de côté, et dans cet extrait qu'on vient de voir, une mise en scène de Patrick Carbras en 1994, avec, on l'a vu, Pierre Vanek, Fabrice Lucchini, et c'est Pierre Arditi hein, qui, dans la distribution oui. initiale, je crois, jouait Yvan le troisième.
Oui, absolument.
Au départ, il ne s'attendait pas du tout à rire. Je crois qu'il s'était très surpris, même le premier soir, où les rires ont fusé de la salle. Comme si, finalement, au départ, pour eux, tout devait être extrêmement sérieux. Mais vous voulez... On rit de tout. On peut rire de tout. Vous voulez rire de tout ?
Moi, c'est pas que je veux rire de tout, mais je pense qu'on peut rire de tout, oui. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr.
Bon, de l'art contemporain, d'accord. De l'amitié.
Mais bien sûr, on peut rire de tout. C'est... Le rire est une fonction vitale. Il n'y a pas d'interdit dans le rire. Comment voulez-vous qu'il y en ait ? On peut pleurer de tout aussi. Les sentiments n'ont pas de barrière, il n'y a pas d'arrêt pour les sentiments. Le rire est une fonction, une libération, un état de l'être qui ne peut pas supporter la moindre barrière.
Et pourtant, les gens, et souvent, peuvent être partagés entre le rire et la gêne, par exemple.
Ah oui,
et oui.
Moi j'adore ça. J'adore quand on rit, on pleure, on est gêné. Mais c'est ce mix-là que moi je traque. Je ne cherche pas que le rire, je cherche toute l'ambiguïté de où trouver le... Où est la justesse du sentiment et de la sensation. C'est ça qui est très, très intéressant. Et pour avoir vu mes pièces un peu partout maintenant et dans des langues très différentes, je vois tous les basculements qu'il peut avoir. Et d'ailleurs, ça a fondé pour moi la validité de mon écriture.
C'est-à-dire ?
Je me suis rendu compte que mes pièces pouvaient être supporter des cultures complètement différentes, des mises en scène complètement différentes, être malmenées et résister quand même parce qu'il y avait une richesse de potentiel à l'intérieur. Et jusqu'alors, je n'étais pas complètement sûre qu'elles étaient riches, qu'elles pouvaient voyager. Et là, je me suis dit bon, c'est valide, c'est fort.
On peut rire de tout, y compris rire d'Auschwitz, des camps de la mort, des camps de concentration.
Dans Serge, il n'est pas question de rire des camps de la mort, pas une seconde.
Mais vous êtes consciente tout de même que dans Serge, et on va en parler, le lecteur, à un moment, est partagé entre gêne et rire et hurle de rire.
Oui, mais
vous réussissez quand même ce tour de force,
oui.
Pardon, mais de nous faire rire avec un voyage... organisé et totalement raté par cette fratrie à Auschwitz.
Oui, mais quand on dit à Auschwitz aujourd'hui, c'est pas le Auschwitz des années 40. Je pense que ces mêmes visiteurs dans les années 40 n'auraient pas pu rire une fraction de seconde. Ils peuvent rire, et enfin, nous lecteurs, on peut rire de leur visite là, parce que c'est une visite de touristes dans un parc d'attractions sinistres. Mais Auschwitz d'aujourd'hui n'est rien. Rien. C'est un lieu, c'est une lande de terre qui a porté un nom tragique, cosmique, mais qui n'a strictement plus rien à voir avec ce qu'il a représenté autrefois et ce qu'il a été autrefois. C'est là où... moi, je trouve qu'avec ce livre, je voudrais vraiment mettre le doigt là-dessus. C'est que ça porte le nom d'Auschwitz, mais ça n'a rien à voir.
On est au cœur de Serge, l'histoire d'une famille, d'une fratrie, une fois encore, deux frères, une sœur, histoire du temps qui passe aussi sur cette famille, histoire de la mémoire de cette famille juive, mais enfin... extraordinairement libre avec la mémoire. Ça ne nous intéresse pas, l'histoire des parents, oh là là, c'est pas pour nous. Tiens, pour quelle raison ces trois-là, alors que l'aîné approche la soixantaine, lui qui fut un flambeur, un osseur, et que l'on découvre fatigué, quitté, bouleversé. Pour quelle raison ces trois-là vont-ils ensemble, en famille, à Auschwitz, aujourd'hui, précisément ?
Alors, dans le livre, ça se présente comme un jeu de quilles, c'est-à-dire que la personne qui veut aller faire une visite à Auschwitz... Alors, il faut quand même dire, peut-être, qu'une partie de leur famille est décédée à Auschwitz, des gens qu'ils n'ont pas connus, hein, des cousins de la mère. Et c'est la fille de Serge, qui a 24 ou 25 ans, qui veut y aller. Et elle ne veut pas y aller toute seule, elle veut que son père l'accompagne. Et son père, qui n'a aucune envie d'y aller, se dit, qu'est-ce que je vais faire à Auschwitz, seule avec ma fille, avec qui il a de toute façon des rapports un peu difficiles. Donc il demande à sa sœur si elle veut bien l'accompagner. La sœur est enthousiasmée à l'idée de faire ce voyage qu'elle n'aurait jamais osé faire seule. Et il demande au troisième frère de les suivre, qui lui accepte par... Par je sais pas quoi.
Oui, il est au milieu, hein, le troisième. C'est le narrateur.
C'est le narrateur.
C'est celui qui essaye de concilier un peu tout le monde dans cette famille. Ce Serge qui est de plus en plus atrabilaire à mesure que l'âge passe. Et puis cette sœur, d'ailleurs, qui s'est engagée depuis 4 ans, je crois. Oui. Elle organise, elle travaille dans des programmes pour organiser un certain nombre de voyages. Elle est mariée à... quelqu'un qui n'a absolument rien à voir, qui est issu d'un milieu, si ma mémoire est bonne, catholique et ouvrier, ce qui lui vaut les pires sarcasmes de la part de ses deux frères. Elle est devenue aussi un petit peu la souffre-douleur des deux. Et vous dites de la jeune fille qui déclenche ce voyage, c'est une jeune pousse en mal d'identité.
Oui.
Est-ce que ça, c'est un des mots de l'époque aussi ?
Oui, oui, bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, dans ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de les entraîner là-bas, c'était la jeune fille, enfin la jeune femme. Car le mal d'identité, pour moi, est beaucoup plus du côté des jeunes que du côté de ceux de ma génération. Ceux de ma génération, mais je parle de gens que je connais, n'ont pas été en mal d'identité, en tout cas n'ont pas cherché cette identité-là. C'est plus ou moins vrai d'ailleurs. Je m'entends parler, je suis pas sûre d'être totalement juste dans ce que je dis, mais enfin, il y en a certains qui se sont adossés à la catastrophe de la Shoah pour être juifs. Mais enfin, beaucoup n'ont pas cherché cette identité-là, s'en foutaient en fait. Et ce qui était le cas de ma fratrie.
De votre fratrie à vous ?
Oui, oui, complètement.
C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas savoir
pas
ce que pouvait avoir vécu
pas
votre mère, par exemple, juive de Hongrie ?
Pas du tout. Mon père, je ne vais pas raconter ma vie, mais je veux dire, mon père a été à Drancy, on n'a jamais posé de questions, on n'a jamais... Non.
Sans que ça pose de problèmes d'identité ou de construction, ou est-ce qu'au contraire avec des regrets aujourd'hui ?
Alors, puisque vous allez dans l'identité, pour moi, c'est, l'identité n'est pas du tout remise en cause avec ces choses-là. L'identité, pour moi, l'identité ne peut être que l'identité personnelle qu'on se forge soi-même. Elle n'a rien à voir avec la culture, les racines et le...
L'identité Yasmina Reza n'a rien à voir avec
non,
un père né à Moscou, iranien d'origine... Pardonnez-moi, mais qui récitait du La Fontaine et du Victor Hugo dans les rues, qui est arrivé en France avec une mère violoniste hongroise.
Non, mais mon identité a peut-être à voir avec leur personnalité à eux, mais elle n'a rien à voir avec l'appartenance à tel groupe ou telle communauté. C'est cette ambiguïté de vocabulaire qui me gêne, ce qu'on appelle souvent identité, pour moi, de façon moderne, contemporaine, c'est l'appartenance. Et nous, on était profondément sans appartenance. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui doit être sur cette table et qui s'appelle « Nulle part ».
Oui.
Sans
que vous en parliez.
Sans racines, sans lieu et sans appartenance fondant une identité.
Dans Nulle part, ce sont aussi des fragments autobiographiques.
Oui.
Ils commencent, je les ai relus hier soir pour préparer cette émission, ils sont bouleversants parce que les deux, trois premiers, parlent de vos enfants et de la mère que vous êtes, la jeune mère que vous êtes, et qui les voit partir. Ils sont tout jeunes, tout petits. Aujourd'hui, ils ont presque l'âge de Joséphine, la jeune fille de 20 ans, qui voudrait et qui entraîne ses parents à Auschwitz. Comment réagiriez-vous si vos enfants, aujourd'hui, en quête d'une identité que vous, vous n'avez pas cherchée, vous n'avez pas eu besoin de chercher, vous disait « nous aimerions y aller ».
Mais j'y suis allée avec eux pour préparer ce livre.
Ah ben voilà.
Voilà, la première fois avec mon fils, la deuxième fois avec ma fille, qui était très content de m'accompagner, mais je ne pense pas qu'ils étaient en recherche d'identité. Je crois qu'ils ils avaient une curiosité, comme moi je l'avais aussi. Hein.
Est-ce que c'est à ce moment, lors de cette visite, que vous avez vu que tout à coup, au moment d'ailleurs où les derniers survivants disparaissent, biologiquement, le lieu d'histoire se transforme en lieu de mémoire et le lieu de mémoire en parc d'attractions, pour reprendre votre expression?
C'est compliqué à dire. J'ai pas beaucoup de... C'est très difficile d'avoir un avis là-dessus. Et je m'en garderai bien d'en avoir. Mais intuitivement, il me semble que ces lieux étaient fondamentalement... la préservation de ces lieux était vraiment justifiée tant que survivaient des gens qui avaient pu y être déportés. Et que, à partir de maintenant, où il n'y aura plus que très peu, il reste encore quelques...
Il en reste, oui, quelques-uns, oui, mais qui étaient
quelques-uns
enfants.
Quelques-uns qui étaient enfants ou adolescents. Oui. Et bientôt, il n'y aura plus grand monde qui a été... Je pense qu'à partir de là... La validité même de maintenir à flot tous les bâtiments, les rails, parce que tout est conservé à base de... C'est les scientifiques qui s'attellent à la conservation, sinon tout serait poussière, tout serait recouvert par les herbes. Donc je me pose la question de savoir si ce serait pas mieux maintenant qu'il n'y a plus les hommes.
Il faudrait qu'on cesse de le visiter ou alors qu'on le visite dans cet état...
Je ne veux pas répondre à « il faudrait ».
Non, mais
je
vous,
n'ai pas de...
Vous,
votre, non, j'ai pas de...
votre sensibilité lorsque vous vous y promenez, que vous décrivez, parce qu'il y a des scènes dans ce roman qui sont à la fois, à la fois effrayante et drôle. Je ne sais pas comment vous faites, d'ailleurs.
Vous êtes,
vous êtes la seule. Enfin, voilà. C'est effrayant de se dire qu'on arrive et qu'on voit des quarts de touristes où les gens descendent avec des bananes rouges à travers le corps, des shorts bariolés, des baskets de toutes les couleurs, des perches à selfie qui sont utilisées à peine la grappe est-elle entrée dans le camp suivi par un autre groupe. Et en même temps, vous le racontez avec les mots qui nous font rire, alors qu'on n'a pas du tout envie d'en rire. C'est ce
question,
que vous avez vu. C'est ça, Auschwitz, aujourd'hui?
Oui, oui.
Devenu un parc à touristes?
Oui, mais depuis des années, c'est comme ça. Les gens sont en groupe. La plupart viennent du monde entier, ne savent pas ce qu'ils voient, ne sont pas tellement préinformés, prennent un masque de douleur parce qu'il le faut, mais...
Donc on se compose une attitude. On se forge une gueule.
Je ne sais pas à quoi ça sert, si vous voulez. Je ne sais pas à quoi ça sert d'aller là-bas. Et en même temps, je serais incapable de dire que c'est complètement inutile. Honnêtement, je ne sais pas.
Même votre personnage, hein,
je ne sais pas quoi dire.
Le personnage de Serge, d'ailleurs, vous ne le ménagez pas. C'est lui qui dit « mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne sert à rien, c'est totalement inutile ». Mais lui-même, vous le retournez en disant « mais attends, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Voilà. Qui es-tu pour juger ?» etc. Donc il n'y a, voilà, jamais de morale
dans vos livres. Non. Et le livre ouvre sur plusieurs pistes et je pense qu'on peut se reconnaître dans plusieurs états d'esprit aussi.
Mais tout de même, une interrogation, Yasmina Reza. Est-ce que l'on peut encore aller dans un lieu de mémoire, y chercher une émotion, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que le monde dans lequel nous vivons a détruit, y compris ces émotions-là?
J'ai pas de pensée générale de cet ordre, à vrai dire.
Et quand vous y étiez, qu'avez-vous ressenti?
Déjà, je voudrais juste dire votre phrase, aller dans un lieu de mémoire. C'est des phrases toutes faites, ça. Ça ne veut rien dire, aller dans un lieu de mémoire et rechercher l'émotion. Ça, c'est, pour moi, un lieu de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? j'ai du mal avec ces formules des lieux de mémoire.
Ouais.
Ça veut dire quoi?
Eh bien, Auschwitz, pour vous, n'est pas un lieu de mémoire, un lieu d'histoire.
Un lieu d'histoire? Mais pas un lieu de mémoire.
Oui, mais peut-être aussi un lieu où tout à coup, la mémoire joue un autre rôle, un lieu où on se souvient. Un passage d'ailleurs dans votre livre où vous...
Oui, mais se souvenir de quoi? On n'y a pas été soi-même. Le souvenir ne peut être qu'une... Le mot mémoire est très mal employé. On devrait dire savoir plutôt que mémoire.
Ne peut-il être que ressenti, souvenir?
C'est un savoir. Oui, pour moi, la mémoire, elle ne peut être qu'intime, personnelle. Elle ne peut... Parce que sinon, la mémoire, un ordinateur aussi a de la mémoire. C'est un mot qui est en soi relativement inhumain. Pourquoi notre cerveau décide de se souvenir ou d'oublier? C'est bien qu'il y a un travail émotionnel qui est fait à l'intérieur de l'homme pour ça. Et il choisit de se souvenir que de ce qu'il a vécu. Or la mémoire ne peut être effective que si vous avez vécu. Là, quand on dit devoir de mémoire, par exemple, ce fameux devoir de mémoire...
Alors ça, c'est autre chose, parce que le devoir...
Un devoir de savoir, peut-être, un devoir d'information, qui d'ailleurs n'aurait pas plus d'effet, parce que c'est pas parce qu'on sait que les choses vont forcément mieux. Mais la mémoire, je comprends pas le mot tel qu'il est... Je crois que ça fait partie de ces mots détournés vers l'édifiant pour lisser l'histoire en bonne conscience et...
On s'achète un certificat de bonne conduite.
Oui, je pense, un peu.
Quand on prétend aller...
Non, pas quand on prétend.
Ces lieux-là.
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais parler de devoir de mémoire, on s'achète un petit certificat quand même, si on croit que la formule est efficiente.
Mais pour vous, c'est le mot mémoire qui pose problème, plus que celui de devoir.
Non, les deux.
Et alors, ce qu'on a lu, j'entends ce que vous dites, mais... Je reviens, pardonnez-moi, sur ce lieu de mémoire, ou sur Auschwitz, pour en choisir d'autres. Ce qu'on a lu, par exemple, chez Primo Levi, ou ce qu'on a lu chez Imre Kertész. Tous les deux déportés, jeunes d'ailleurs, 15 ans, Imre Kertész.
À qui je dédie...
Vous dédiez ce livre, Serge. Je me demandais d'ailleurs si avec Imre Kertész, que vous avez connu...
Oui.
Prix Nobel de littérature, déporté à l'âge de 15 ans à Auschwitz, et puis dont le livre « Être sans destin », je dis le livre parce qu'il y en a eu plusieurs, mais c'est celui-ci qui est peut-être le livre inaugural, a connu une drôle d'histoire, hein, écrit et puis ensuite totalement oublié, redécouvert dans les années 80-90 et dans le monde entier à partir de 2000-2002. Est-ce que vous riez avec Imre Kertész
oui.
de ceci, d'Auschwitz?
Ah non. Non, pardon. j'ai ri beaucoup avec Imre, mais pas d'Auschwitz. Encore qu'on aurait pu. On aurait pu, je pense, d'une certaine façon.
Lui aurait pu.
Oui, lui aurait pu. Oui, moi, oui. j'aurais jamais osé de rire de son histoire. Mais c'est très intéressant que vous citiez ces livres que moi j'adore. Hein, et ce sont deux très grands écrivains. J'ai beaucoup plus... alors, la mémoire, par exemple... Je me suis... Quand on les lit, on adopte leur mémoire. Et c'est pour ça que Auschwitz, maintenant, est beaucoup plus un territoire mental créé par eux, par Lanzmann avec Shoah, par... C'est ça, Auschwitz. C'est beaucoup plus ça que les lieux même qu'on peut visiter aujourd'hui. Parce que eux ont transfiguré par leur art, par la grandeur de leur écriture.
Est-ce que c'est la littérature, finalement, qui... Peut-être plus que l'histoire ou la mémoire nous permet de continuer à ressentir des émotions, de comprendre, de garder, même si ça va vous sembler atroce. J'allais dire ne pas oublier.
Oui, non, mais ça me semble pas atroce.
Ah bon, bah tant mieux.
Mais ça me semble pas du tout atroce. Mais la littérature, oui, je mets très haut la littérature. La littérature, très importante.
Il vaut mieux aujourd'hui pour quelqu'un qui nous regarde... aller à Auschwitz avec les perches à selfie ou lire Imre Kertész.
Il vaut mille fois mieux lire Kertész ou Lévy. Il n'y a même pas de... Ou regarder Shoah.
Sur cette question du souvenir, je lis page 122, ceci. Souviens-toi. Mais pourquoi? Pour ne pas le refaire? Mais tu le referas. Un savoir qui n'est pas directement relié à soi est vain. Il n'y a rien à attendre de la mémoire. Ce fétichisme de la mémoire est un simulacre. Il y a plusieurs choses dans cet extrait que je trouve brillant. Cette charge contre le fétichisme de la mémoire, mais aussi l'idée qu'on le refera. Vous ne croyez pas du tout que précisément des lieux comme ceux-ci nous permettent de tenir à distance ce qui a été fait et ne pas le refaire ?
Non. Non. Ah non. Ce serait trop facile. S'il suffisait de certains lieux emblématiques... non, ça ne sert absolument à rien. Je ne comprends même pas qu'on puisse l'imaginer.
Souviens-toi, mais quand tu retourneras au soleil à ta bagnole, de quoi te souviendras-tu ? Et même si tu te souvenais. Voilà ce que pense le narrateur.
Vous voyez pourquoi ? C'est toujours mieux écrit, en fait. C'est... tout ce qu'on... Les commentaires sont toujours moins bien.
Il y a quand même une chose sur laquelle j'aimerais avoir, si ce n'est un commentaire, du moins peut-être un éclairage, Yasmina Reza. C'est cette superposition entre, on va dire quelque chose d'un peu universel, le lieu où je me trouve, Auschwitz, et puis l'image que le narrateur en garde. Pas du tout ce qu'il venait voir, les chambres à gaz, le lieu, mais l'image de cette sœur vieillie, au corps épuisé, qui cherche en vain quelque chose qui accroche son regard et qui a une banane rouge, comme tous les touristes, en travers du corps. Et alors là, il y a une page qui, tout à coup, après nous avoir fait rire pendant trois pages, vous nous scotchez avec ce moment qui renvoie à une solitude absolument terrifiante. Absolument terrifiante.
Mais... J'ai fait un entretien avec Jean Birnbaum dans Le Monde où je lui disais que, au fond, tout ce que j'avais écrit, je pouvais le résumer à une cartographie de la solitude. Et c'est cette formule comme ça que j'ai dit là et que je me permets de redire parce qu'elle m'a paru très juste par rapport à mon travail. C'est-à-dire, en réalité, je crois que je ne parle de rien d'autre, car je crois profondément que ce qui nous meut, c'est la terreur de la solitude. Pas seulement de la solitude de ne pas se trouver seul quelque part, mais de la solitude interne, de la... Je crois que l'homme naît seul et ne se résout pas à cet état... Et pourtant, on ne peut pas en sortir parce que le corps n'appartient à personne d'autre qu'à vous-même. Et notre esprit, et nous sommes totalement prisonniers du corps. Donc, il n'y a pas de pont d'un corps à l'autre. Même si brièvement, il y a des étreintes. Mais, quand sa sœur, voûtée par l'âge et avec la banane rouge du touriste, passe devant les deux wagons... posés là, pour, qui sont d'ailleurs des wagons probablement reconstitués. Et bien, lui, ce qu'il voit, ce n'est pas la tragédie d'il y a 70 ans. Il voit le corps vieilli de sa sœur. Et la quête à la fois charmante et dérisoire de sa sœur. Et ça, à mon avis, tout le monde peut comprendre ça. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on amène les gens dans le lieu de la catastrophe, mais c'est en fait la catastrophe intime qui prime. Et moi, j'ai toujours pensé que le petit primait sur le grand. C'est nos occupations de tous les jours. L'engueulade qu'ils ont là, c'est une engueulade de tous les jours à propos d'un neveu. C'est l'engueulade familiale de Monsieur Tout-le-Monde. Dans l'endroit cosmique de la grande tragédie, mais c'est l'engueulade de Monsieur Tout-le-Monde qui compte. On est tous comme ça, enfin, il me semble.
Sur la solitude, vous écrivez, effectivement, j'aime beaucoup cette expression de cartographie, parce qu'elle permet aussi de nous mettre dans l'espace, j'allais dire dans les lieux, mais en tout cas dans l'espace. Est-ce que vous nous liriez ? Parce que je ne vais pas vous demander de la commenter. Elle est tellement bien écrite.
Ben, ça va être très dur à commenter.
Mais ne la commentez pas, s'il vous plaît. On va la commenter en image avec Adrien Solan, qui va nous envoyer l'image à laquelle vous faites allusion. C'est la page 75. Et je crois que c'est une des plus belles descriptions de littérature de ce qu'est la solitude.
Vous voulez que je lise toute la page ?
Oui, s'il vous plaît.
Il y a quelque chose de poignant dans la position de l'homme assis au bord du lit. Les épaules sont rentrées, le buste affaissé. Le lit n'est pas fait pour cette station. Un tableau célèbre d'Edward Hopper montre un homme presque entièrement habillé dans cette situation irrésolue. Ses mains pendent entre ses jambes, il regarde le sol. Derrière lui, mais on ne la voit pas tout de suite, une femme à moitié nue, dort tournée vers le mur. Si je pense à l'image, je ne me souviens pas d'elle. L'homme est seul, d'une solitude qui s'exprime de jour comme de nuit, qui n'a rien à voir avec d'autres présences, la lumière ou le décor. La solitude, c'est le lit et l'attitude rompue. C'est l'attente de rien. L'homme n'est vu de personne. Le corps inobservé consent à l'abattement. C'est cette particularité de n'être vu de personne qui renvoie à l'enfance, au possible vide de l'avenir. C'est ça, hein,
c'est pas la première fois hein, qu'elle les présente, cette toile d'Edward Hopper que l'on vient de voir. Qu'est-ce que vous faites comme lien entre, justement, l'enfance, l'avenir et cette toile ?
Je ne saurais pas répondre à cette question.
Elle est là depuis longtemps. Elle tourne. Elle vous obsède.
J'en ai déjà parlé ?
Vous l'avez utilisée pour un de vos livres de poche.
Ah. Ah oui ?
Tiens, le voilà.
Et vous voyez, alors là, je ne m'en souvenais plus. C'est incroyable.
Est-ce que tous vos personnages ressemblent à cet homme au bord du lit ?
Ah oui, certainement, oui. Ah oui, certainement, oui, oui, c'est... Je me souvenais plus que c'était le... que je l'avais déjà utilisé.
Il y a Hopper, pour dire la solitude, et puis il y a aussi, et ça c'est présent dans tous vos livres, bien sûr dans Serge, mais aussi dans les autres, l'usage de la photo. Tout commence dans Serge par une photo de groupe, qui pourrait être une photo joyeuse si Yasmina Reza ne nous racontait pas l'histoire. Alors c'est une histoire à la fois drôle, mais évidemment, où les contradictions des uns des autres déjà affleurent et apparaissent. Pourquoi la photo est-elle presque à l'origine de quasiment tous vos livres, souvent de vos pièces ?
Alors moi, j'adore la photo, je pense que c'est un art majeur. Quand je dis j'adore la photo, j'aime toutes sortes de photos, mais j'aime surtout ce qu'on a appelé la photo de rue. Qui a été essentiellement dans les années 50, 60 et 70, la photo dite de rue, où on prend les hommes dans leur situation de quotidien. Et la photo qui arrête le temps et qui permet, plus que le cinéma, plus que n'importe quoi d'autre, de regarder l'être dans un moment qui n'existe pas, puisque c'est un moment arrêté et que nous n'en avons aucun dans la vraie vie, à une profondeur de champ, pour moi, incroyable. Incroyable. C'est là, si vous voulez, c'est comme un élixir. C'est la substantifique moelle du moment, chez les grands photographes, naturellement. Et il y a une formule merveilleuse de Borges qui dit « le mince hier des photographies ». Le mince hier des photographies.
Ouais.
Et ce mince hier des photographies, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Parce que c'est un immense hier, en fait. C'est un mince, mais immense hier. Et aujourd'hui aussi. Et... Vous saviez que j'allais parler de Borges. Il était sous la main.
Je me doutais bien qu'à un moment, Borges viendrait, que peut-être Thomas Bernhard viendra. Quels sont les écrivains, d'ailleurs, qui, vous accompagnent, non pas vous inspirent, mais vous accompagnent, comme vous venez de le dire avec Borges, pour évoquer, par une formule très précise, une photographie. Mais ça peut être autre chose. Quels sont-ils, ces écrivains-là ?
Alors, indiscutablement, ceux que vous avez cités, Borges, Bernhard, Singer.
Isaac Bashevis Singer.
Oui.
Dans ce roman, Serge, que vous allez me rendre, parce que je tiens à mon Serge, dites-moi. Merci. Chacun part avec son livre. Oui. Ils ont très bien préparé leur voyage à Auschwitz.
Oui, oui, oui. Alors,
celle qui part avec son livre très sérieux, c'est-à-dire Primo Levi, et puis le blasphémateur d'Isaac Bashevis Singer, qui est le titre dit tout. Pourquoi ? Qu'est-ce que ce livre-là vous...
Dans ce livre-là, il y a des nouvelles qui sont de tels chefs-d'œuvre que je ne saurais que trop conseiller aux gens qui nous regardent. D'ailleurs, je conseille vivement toutes les nouvelles de Singer. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre incomparables.
Pourquoi des chefs-d'œuvre ?
Parce que c'est un écrivain d'une trempe exceptionnelle, qui ose tout, qui sait raconter des histoires, qui sait créer des êtres multiformes, qui n'a peur de rien, qui...
Où souvent le rire est présent,
oui,
mais
oui,
comme
oui.
vous le disiez tout à l'heure, un rire grinçant, mais surtout à côté. C'est-à-dire que c'est jamais la thématique principale, mais c'est par des détails.
Oui, cette description de personnage, lui aussi voit le ridicule très facilement, mais c'est très humain en même temps. Enfin, c'est un écrivain exceptionnel. Non, qui j'ai d'autres j'en ai d'autres. C'est toujours quand on demande de citer, on se retrouve à court de... Après, je me dirais, j'aurais dû dire, mais bon, rien ne me vient. Mais c'est vrai que dans ceux qui m'ont vraiment formée... Longtemps, il y avait Dostoïevski, mais Dostoïevski, c'est une traduction. C'est plus dur à citer, c'est plus dur à cerner sur le plan des phrases. Je ne suis pas sûre qu'il était un grand styliste, et les traductions que moi j'ai lues à l'époque, maintenant je crois que c'est très bien retraduit, n'étaient pas... Encore que peut-être... il me semble que dans Serge, je fais une citation, non, de... Les yeux dociles, c'est Tolstoï, Dostoïevski, il me semble que je cite un russe à un moment donné. La littérature russe, en tout cas, a beaucoup compté pour moi.
On a le sentiment que, en vous lisant, derrière tout ce qu'on a entendu, qui... J'aime pas les mots optimistes et pessimistes, hein, on est dans une émission où, justement, chaque mercredi soir, les écrivains viennent nous mettre en garde contre ces mots-là. Mais que, chez vous, si on parlait de pessimisme, il faudrait immédiatement y accoler qualificatif gai. Joyeux, presque heureux malgré tout. Est-ce que le bonheur, Yasmina Reza, que vous avez crucifié dans un certain nombre d'autres romans et pièces de théâtre, hein, exactement comme la visite au lieu de mémoire, est-ce que le bonheur a encore un sens pour vous, ou est-ce que c'est une de ces fausses valeurs que vous pourfendez ?
Je ne pense pas que ça puisse être un état continu. Pas comment dire, le bonheur de façon continue, mais les instants de bonheur, j'y crois dur comme fer. Évidemment.
On est rentré dans une époque, écriviez-vous, où il y a une... Nous sommes ivres de bonheur, tout comme nous sommes ivres de mémoire.
Oui.
Que vous aimez,
c'est vrai.
Cherche cette quête effrénée du bonheur, que vous évoque-t-elle ?
C'est très difficile de répondre, parce que la quête effrénée du bonheur, je ne sais même pas si elle existe en réalité. On aimerait tous être heureux. Mmh. C'est très difficile d'être heureux. C'est difficile de vivre. C'est difficile d'être sur Terre.
Qu'est-ce qui vous aide, vous, à être sur Terre et à vivre ?
Écrire. Mais encore, je voudrais apporter une nuance à ça, c'est-à-dire, je pense que l'écriture m'a sauvée, mais quand je dis ça, je veux dire, l'écriture, le fait de pouvoir m'exprimer correctement dans un domaine, ça aurait pu être autre chose, mais enfin, il se trouve que c'était l'écriture, m'a sauvée, mais aussi, et grandement, le fait d'avoir eu des lecteurs, c'est-à-dire... J'ai eu dans ma vie quand même une chance absolument incroyable de faire une activité qui a été reconnue, mais pas, je ne parle pas du point de vue social, mais qui a été... J'ai dit des choses et elles ont été entendues. Il y a des gens pour les entendre. Mmh. Des gens qui ont payé leur place au théâtre, qui ont acheté les livres. C'est un très grand bonheur, ça. C'est pas, on ne peut pas ne peut pas nier ça, ou ce serait un scandale de le nier. Et ça, je me rends bien compte de la chance que j'ai eue à cet endroit-là. Et ça m'a sauvée. Parce que si je n'avais pas eu d'écoute, s'il n'y avait pas eu d'écho à ce que j'avais fait, je pense que j'aurais été très malheureuse.
C'est une formule qui peut aussi prêter parfois à rire. Quand on dit « les livres m'ont sauvé », quand on dit « écrire m'a sauvé ». Et pourtant, nous qui parfois la prononçons, cette formule, on mesure à la fois ce qu'elle peut avoir d'emphatique et de totalement vrai. Que seriez-vous devenu si on faisait là, tiens, une fiction, Yasmina Reza, sans l'écriture et sans la lecture du public ?
Je ne sais pas. Sans la lecture, je ne peux pas l'imaginer. Sans la lecture, je ne peux pas l'imaginer. J'ai toujours lu. Donc, c'est vraiment constitutif. Toute ma vie, j'ai lu. Enfant, je lisais. Adolescente et adulte, toujours, j'ai lu. Donc, les livres m'ont accompagnée. Peut-être pas sauvée, mais accompagnée. Et si j'avais écrit sans rencontrer, je pense que j'aurais fait autre chose qui m'aurait rendue quand même contente. Je ne crois pas que je me serais laissée aller à ne pas à être malheureuse. Je ne crois pas. Je crois que j'avais quand même un tempérament à vivre.
Vous avez évoqué à quelques reprises votre jeunesse, votre passé. Quel enfant, lectrice, mais quel enfant étiez-vous ?
J'en sais rien. Non, franchement, je... Non, vraiment, je
ne... Vous savez, mais vous n'avez pas envie de le dire.
Les deux. Je n'ai pas très envie d'en parler, et puis je n'ai pas beaucoup de souvenirs.
Vous n'avez pas beaucoup de souvenirs ou vous ne voulez pas vous souvenir ? On a un sentiment que l'usage du rétroviseur chez Yasmina Reza est quelque chose qui permet à peine de dépasser les lignes blanches. Enfin, vous ne le regardez jamais.
Non, mais c'est... Ce qui peut me rester de moi jadis, c'est là-dedans, c'est dans les livres. À quoi bon parler de soi dans un temps qui n'existe plus ?
La question de la biographie est présente dans Serge, à la fin du livre, au moment où, après ce voyage à Auschwitz, où ils n'ont pas vu ce qu'ils espéraient voir, il faut dire qu'ils plaçaient de très grandes espérances dans ce voyage, les uns les autres se demandent... s'ils ont posé les bonnes questions de leur vivant à leurs parents. Et s'aperçoivent qu'en réalité, ils n'ont de leur biographie à leurs parents que des bribes, des fragments, et peut-être d'ailleurs affabulés. Vous semblez nous dire que c'est pas grave.
Non, ça n'a aucune importance.
Vraiment ?
Ah oui, vraiment. Aucune importance. Moi, je pense qu'on gagnerait beaucoup à se construire ex nihilo.
Vous croyez que c'est possible ?
Non.
Bon. Alors, comme c'est pas possible, on fait comment ?
Je n'ai aucune compétence pour donner un mode d'emploi. Mais bon, on prend ce qu'on peut, ce qu'on veut, de nos parents, d'autres personnes aussi, de maîtres, d'écrivains, de qui que ce soit.
Quand vous écrivez ça, est-ce que c'est une façon de dire que vous n'écrirez pas ? Votre autobiographie, vos mémoires.
Certainement pas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Mais je l'ai écrite aussi.
Mais de quoi avez-vous peur ?
Mais non, c'est-à-dire, j'ai fait une alchimie avec ce que je suis, ce que j'ai vécu. J'ai métamorphosé les choses et c'est devenu des livres qui intéressent d'autres que moi. Moi, mon petit mélodrame personnel n'intéresse personne. Ma vie n'intéresse personne. Pourquoi parler de moi en tant que moi ? Moi, ce que j'aime, c'est la transfiguration, c'est l'alchimie, c'est l'art, c'est la transformation. Ça n'est pas ma petite vie qui n'a aucun intérêt et qui n'a pas plus d'intérêt que... Pourquoi je serais là si c'était pour raconter ma vie ? Ça n'a pas de...
Est-ce que vous venez de nous donner une définition de ce que peut être la littérature ?
Non, je n'ai pas eu cette impression.
L'alchimiste ?
Ah oui, il y a une forme d'alchimie, bien sûr, bien sûr.
On va continuer à parler de Serge en recevant dans un instant deux autres écrivains que vous avez souhaité voir avec nous ce soir, Pascal Robert-Diard et Philippe Ridet. Mais juste avant leur proposer de s'asseoir en face de votre divan, puisque je vous ai mis sur le divan tout au long de la soirée, oui, Yasmina Reza. Eh bien oui, je vous emmène comme tous les soirs dans une librairie. Alors j'aimerais que vous la regardiez attentivement, je crois qu'elle va vous plaire et ce qu'on y trouve tout particulièrement. Nous allons à Valence, dans la Drôme, où Philippe Fussaro a créé il y a 7 ans la librairie L'Oiseau Siffleur. Et au menu, un éloge de l'amitié, de la littérature américaine et du Yasmina Reza. Et c'est Inès de la Motte Saint-Pierre qui est partie à sa rencontre.
Un libraire, c'est un lecteur fou. La lecture, c'est aussi important que boire, manger, dormir, faire l'amour. C'est essentiel, c'est ce qui nous fait tenir debout et dans les temps comme on vit en ce moment. C'est ce qui permet de réfléchir sur le monde qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de lutter, de résister à l'ennui. Donc lisez, 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 lire toujours plus. Le grand livre américain, c'est la trilogie des confins de Cormac McCarthy. Et ce que j'aime le plus, je crois, chez lui, c'est cette trilogie avec De si jolis chevaux, Le Grand Passage et Les villes dans la plaine. C'est du western philosophique. Ce qui m'impressionne chaque fois chez lui, c'est qu'il prend un genre et le transcende complètement, il le réinvente. Hein. Le plus beau livre de ma vie, c'est Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher. Ce livre-là, il est d'une grande modernité. C'est deux amis qui aiment la même femme, qui vont se la partager et rester en même temps très amis. Il y a peu de querelles entre eux. C'est un éloge de l'amitié et c'est un éloge de l'amour. Hein. Mais de l'amour à trois. Ce qui me plaît chez Raymond Carver, c'est cette Amérique des pauvres, cette Amérique des perdants. Et c'est son humilité, c'est son écriture très simple, c'est l'attention qu'il porte à ses personnages. Il y a énormément d'empathie. C'est quelqu'un qui donne envie d'écrire. Le livre de la transmission, c'est nulle part. C'est une très belle entrée dans l'œuvre de Yasmina Reza parce qu'on a l'impression que c'est un livre autobiographique et qui parle de transmission quand on a peu d'attaches, quand on a peu d'images, quand on a une histoire de famille éclatée, déplacée. Moi, ce texte-là, il m'a beaucoup touché parce que quand on est issu d'une double culture, on se pose ces questions-là de quelle est sa place. C'est ce qui fait toute sa beauté. Le livre que j'offre à Yasmina Reza, c'est L'un l'autre de Peter Stamm. C'est l'histoire d'un couple qui revient de vacances. Ils boivent un dernier verre devant la maison. La femme va se coucher. Et en fait, ce type se tire. La force de Peter Stamm, c'est de ne faire aucune analyse psychologique. Hein. Il ne prend pas le lecteur par la main. Et moi, j'adore ça.
Aucune analyse psychologique, ça vous adorez aussi.
Oui, oui, oui.
Tiens, je vous l'offre. Vous le connaissez, Peter Stamm.
Oui, pas ce livre-là.
Ah ben voilà, c'est pour vous.
Avec grand plaisir, merci beaucoup.
De la part de Philippe
Fussaro. Oui, ben c'est gentil, merci beaucoup. Et ça me fait plaisir qu'il ait cité nulle part.
A-t-il raison de dire que la porte d'entrée, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui nous regardent ce soir, peut-être pas encore, Yasmina Reza, c'est peut-être ce très court texte, passé peut-être un peu inaperçu au moment de sa parution.
Mais je pense qu'il a raison. Je pense que c'est le texte dont je suis le plus fier.
Vous êtes totalement consciente que vous dites l'inverse de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, du coup, on attend la suite, c'est-à-dire votre autobiographie, vos mémoires ou des textes personnels et autobiographiques. Les écrirez-vous ?
Ils sont faits, c'est fait. Non.
Jamais. Hein.
Non.
Deux journalistes et écrivains viennent de nous rejoindre sur ce plateau. À votre invitation, Yasmina Reza, puisque je vous avais demandé, pour préparer cette émission, avec qui vous aimeriez converser ce soir, échanger sur ces sujets dont on a parlé, qui sont la mémoire, qui sont peut-être aussi la vérité. Tiens, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Et vous avez choisi Philippe Ridet et Pascal Robert-Diard. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir pour deux livres qui m'ont beaucoup touché. Pas si différents que cela, en réalité. sur l'époque et très différent sur la manière d'envisager l'enquête et le rapport à la vérité. Pascal Robert-Diard, vous êtes journaliste au Monde, vous êtes chargé au Monde de la chronique judiciaire et vous publiez à l'Iconoclaste, aux éditions L'Iconoclaste, avec le documentariste Joseph Beauregard, Comprenne qui voudra, c'est un récit détaillé de ce que l'on a appelé l'affaire Russier, du nom de cette enseignante, Gabrielle Russier, tombée amoureuse d'un de ses élèves de 16 ans, condamnée à la prison pour détournement de mineurs et qui s'est suicidée, c'était en 1969. Philippe Rillet, vous êtes journaliste au Monde, vous aussi. Alors vous avez couvert la politique française, notamment l'élection de Nicolas Sarkozy, on en parlera parce que... Yasmina Reza, à la même époque, publiait L'Aube, le soir ou la nuit sur l'ascension de Nicolas Sarkozy. Puis vous avez été correspondant pour Le Monde en Italie. Votre chronique hebdomadaire actuellement, ce sont de savoureux portraits que vous livrez dans le journal et vous publiez « Ce crime est à moi » aux éditions des Équateurs. C'est le récit d'un fait divers qui remonte à 1974 et dont vous dites qu'il a façonné l'homme que vous êtes devenu, peut-être même qu'il a aiguillé votre destin. Vous allez nous dire dans un instant pour quelles raisons. Pourquoi, Yasmina Reza, avez-vous choisi ces deux livres et ces deux auteurs ce soir?
Alors, je suis très heureuse qu'il soit là, vraiment.
Ouais, moi aussi.
Parce que, d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour eux deux. Parce que ce sont de très grands journalistes, je trouve. Mais de très grands journalistes au départ, qui sont devenus de très grands auteurs, ce qui n'est pas forcément du tout un chemin évident. Moi, j'ai connu Philippe au moment de L'Aube, le soir ou la nuit. Il était donc, comme on dit, il a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, « Embedded pour la campagne de Nicolas Sarkozy ». Il était un journaliste politique, un grand reporter politique. Et quand j'ai lu tous les livres qu'il a fait, mais quand j'ai lu ce livre-là l'année dernière, enfin, c'est un livre très contemporain parce que le pauvre est sorti une semaine avant le premier confinement, donc personne n'a pu s'en rendre compte. Mais j'ai été éblouie par le livre, je conseille vivement sa lecture. C'est un livre d'une sensibilité, d'une intelligence sur le temps, ce qui ressemble beaucoup, pas du tout à la façon dont j'écris, mais
Ce sont les sujets que vous creusez.
Oui,
aussi.
Voilà. Il est très proche de moi sur les sujets qu'il creuse. Et avec un bonheur d'écriture incroyable et une simplicité, mais dans le grand, grand sens du terme, qui m'a impressionné.
Alors, on va peut-être commencer par « Ce crime est à moi », Philippe Rillet, parce que ce que vous racontez, c'est un fait divers oublié. On est à l'été 1974, dans une ville que vous ne nommez pas,
non,
mais que l'on reconnaît.
Oui.
On peut dire que c'est Bourg-en-Bresse.
Oui, on peut dire que c'est Bourg-en-Bresse, oui. Je ne l'ai pas cité parce que je trouvais que c'était préférable de ne pas lier l'histoire à un lieu trop précis. J'avais envie de parler de la province en général, et pas seulement de cette ville, mais... Toutes les villes de province se ressemblent aussi un peu et ça m'intéressait justement d'être un peu flou sur l'identité de la ville, mais précise sur l'époque, c'est-à-dire les années 70, précise sur un mode de vie, c'est-à-dire la vie en province, c'est-à-dire que une vie assez lente, une vie où les relations sociales sont pas aussi simples qu'on peut l'imaginer, où il y a différentes classes, enfin, c'est peut-être encore plus sensible en province qu'à Paris. Et puis c'est des lieux où il n'arrive pas grand-chose. Donc quand il y a tout d'un coup un fait divers, comme celui-ci, une jeune fille tue d'un coup de carabine son amant. C'est une jeune étudiante en philosophie. Lui, c'est un maître nageur. Donc il y a une sorte de gap entre les deux absolument incroyable. Mais pourtant, ils s'aiment. Ou en tous les cas, la jeune fille est très amoureuse du jeune homme. Elle le tue par jalousie. Et quand quelque chose comme ça arrive dans une petite ville, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que ce crime est à moi, parce que je pense que la balle qui a traversé le cœur de cette victime a un peu coupé ma vie en deux. À l'époque où ça se situe, j'ai 19 ans, et jusqu'à ce moment-là, je suis une sorte de post-adolescent, ou d'un adolescent, en tous les cas, tout occupé de regarder les filles à la piscine. Enfin, c'est cette piscine-là dont il s'agit.
Oui, parce qu'il y a un lieu dans le lieu. Mmh. Voilà. C'est ça qui est très fort, je trouve. C'est pas seulement la ville, c'est la piscine. Et oui, la piscine que vous présentez comme étant le pôle magnétique autour Exactement. Duquel à la fois la jeunesse se tourne, mais aussi où se font les envies, où évidemment se nourra cette histoire et se dénouera ce drame.
Oui, la piscine, c'est un peu c'est le lieu de la fluidité, de la transparence, donc a priori du bonheur, enfin d'une forme d'enfance, parce que tout ce qui arrive finalement de dramatique, ça se passe à l'extérieur, enfin le meurtre a lieu à l'extérieur, même très à l'extérieur, enfin carrément à l'opposé dans la ville, alors bon, il n'y a que moi qui le sais, mais... Et la piscine, c'est aussi le miroir, c'est aussi l'endroit qui reflète un peu la ville elle-même, justement, où on s'observe, parce qu'on est en maillot de bain, où ce groupe d'adolescents qui semblent être identiques, finalement, sont différents, il y a ceux qui sont... qui viennent de familles nombreuses, ceux qui sont fils uniques, ceux qui ont des vélos, ceux qui ont des mobilettes, c'est pas tout à fait les mêmes. Et puis, et en écrivant comme ça, je me suis dit, mais finalement, c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire. Moi, je pensais naïvement que c'était le fait divers, parce que j'avais commencé à écrire cette histoire il y a une quarantaine d'années.
C'est-à-dire que c'est pas un livre de journaliste, en réalité. Yasmina Razal l'a très bien dit. Pourrait penser que, finalement, c'est ce fait divers qui vous intéresse, comme c'est votre cas, vous, Pascal Robert-Diard. C'est le fait divers qui vous intéresse, vous.
Oui, dans le livre.
Non, dans celui que vous avez écrit sur l'affaire Gabriel
Roussier. Oui, bien sûr.
Et vous, en réalité, à un moment, vous dites même que, c'est paradoxal pour un journaliste tout de même, finalement, les fictions que vous avez construites sur ce meurtre...
plus que la vérité.
Oui. Mais pour quelle raison ?
D'abord, je crois que je ne suis pas un fait diversier. Je n'ai pas un grand appétit pour le fait divers. J'aime les lire. J'aime lire les procès. Parce que j'aime qu'il y ait de la distance entre la fois temporelle, entre le moment du meurtre, enfin du fait divers, et son récit. Là, il y a 45 ans, et ces 45 ans, je trouve que c'est ce qui permet, pour l'auteur que je suis, de me détacher du réel, enfin de ce pauvre réel d'une jeune fille qui tue son amant, pour en reconstituer un autre plus...
Mais attendez, est-ce que vous détachez du réel ou de la vérité ? Parce que
les deux.
C'est quand même cette question de la vérité qui, pardon, est un peu obsédante pour un journaliste, c'est-à-dire savoir ce qui s'est vraiment passé, savoir comment les choses se sont déroulées. À un moment, vous êtes tenté, au début des années 80, d'aller retrouver cette jeune fille. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, elle en a purgé, je crois, 3, elle est sortie. Vous retrouvez sa trace, elle habite à Guétari. Vous vous y rendez, et vous auriez pu sonner, lui demander, faire votre boulot de journaliste, pardon, Philippe Ridet. Pour quelle raison ne le faites-vous pas ?
Pour revenir à la question de la vérité, ça, ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose que j'ai projeté, c'est quelque chose que j'ai imaginé d'un personnage qui irait à Guétari, parce qu'il se trouve que j'ai passé des vacances et que je connais un peu la ville, mais je ne l'ai jamais fait. Encore une fois, je suis... je pense que ce livre me constitue comme romancier et me détache, d'une certaine façon, du journalisme. Mais dans le journalisme, dans cette activité-là que j'adore, je n'ai jamais été un enquêteur. Je suis quelqu'un qui me laisse facilement imprégner de la vérité, de la vérité des atmosphères. J'aime les atmosphères.
Un portraitiste.
Je suis plutôt un portraitiste.
Pascal Robert-Diard, il y a une différence réelle entre l'enquêteur et le portraitiste quand on est journaliste, de tous les deux journalistes au monde, en plus.
Ah oui.
C'est pas le même exercice.
Non, moi je pense que je suis effectivement comme Philippe. Bon, la chronique judiciaire, c'est presque encore plus simple, je dirais, parce que nous, on s'assoit sur un banc et puis on écoute et on note, quoi. Je veux dire, il y a pas de tout nous est donné. On fait pas d'enquête, on met pas le pied dans la porte. Moi, j'aime pas le fait divers, par exemple.
Comment ça, vous n'aimez pas le fait divers ?
Vous avez, attendez, pardonnez-moi,
ce livre-là est un livre sur un fait divers. Vous avez écrit précédemment.
Non, je n'aime pas le fait divers. J'aime le fait divers dans la salle d'audience. Ça n'a rien à voir.
Son récit.
Oui.
Oui.
Qu'est-ce qui vous intéresse, Yasmina Reza, vous, dans ces récits-là ? Car vous ne faites pas mystère de ce goût que vous avez pour les prétoires, pour les tribunaux, pour les faits divers, comme le disait Philippe Ridet, racontés des années plus tard.
Moi, j'aime tout. J'aime le fait divers, j'aime le prétoire.
Vous prenez tout.
Je prends tout.
Ouais, très bien.
Mais c'est très intéressant tous les deux, parce que c'est vrai que Pascal, dont je voudrais dire un tout petit mot aussi, c'est que j'ai été très souvent dans des procès en compagnie de Pascal, enfin plutôt, oui, moi je l'accompagnais discrètement, et je lisais ensuite ce qu'elle écrivait alors que j'avais été à côté, et là, je vous assure, parfois c'est éblouissant, parce que c'est très très difficile d'écrire sur un procès qui est incroyablement statique et très... C'est comme un nœud c'est très difficile de sortir quelque chose d'un procès, en cours de procès. Et elle a une faculté de clairvoyance et de finesse et de tirer le fil pour le lecteur, qui est vraiment une faculté d'écrivain. C'est pas du tout une journaliste au sens bien proprette, bonne élève du journalisme, non, pas du tout.
Qu'est-ce qu'un écrivain?
Je pense que l'écrivain, c'est le style, c'est l'écriture,
c'est d'abord l'écriture.
Ce n'est que l'écriture.
Ce qui me frappe, c'est en regardant vos deux livres, c'est que Pascal Robert-Diard, vous allez à l'épure. Il y a une montagne d'archives, de choses dites lors d'un procès. Vous préférez les phrases courtes, une ligne claire. Vous, Philippe Ridet, vous aimez bien ces imparfaits du subjonctif, ces phrases qui serpentent, qui se promènent un petit peu, et puis qui tout à coup, tac, en fin de paragraphe, viennent nous cueillir.
Oui, c'est assez bien résumé. J'ai une capacité, peut-être qu'on pourrait, mon éditeur pourrait me le reprocher, de faire peut-être des phrases parfois un peu longues, parce que je pense que...
Mais c'est pas un défaut quand même, on a le droit de faire des phrases longues, on aime ça nous.
Yasmina, mais je pense que, pour en revenir à cette question de la vérité, elle est dure à attraper et que voilà, il faut un peu se battre avec pour l'attraper, enfin il faut lancer des nasses. Donc les phrases un peu longues, c'est comme des nasses pour récupérer le plus de détails possible, d'atmosphère possible, parce que c'est un roman d'atmosphère avant tout, en fait. C'est, encore une fois, le crime est vite résolu. Ce qui est intéressant, je crois, à mes yeux, c'est une époque, c'est ces années 70, et surtout, c'est de vouloir, enfin, en tous les cas, ce qui était mon obsession, c'est de vouloir présenter ces années-là un peu à l'envers du cliché qu'elles ont laissé comme
c'est
des années...
Quel est le cliché pour vous aujourd'hui? Parce qu'on parlait, des années Raza, bonheur, tout à l'heure, a détruit pas mal de clichés. Alors si on en avait un sur les années 70, quels
seraient des années un peu comme cette couverture, des années très colorées, en technicolor, ouais. un peu Hollywood chewing-gum, alors qu'en fait, c'est aussi des années grises. Moi, je me souviens de cours de lycée, on était tous habillés en bleu et en marron, on avait des parkas, on faisait de la buée en parlant, l'hiver dans les cours, on était tous alignés en rang comme des sardines dans les salles de classe, il y avait encore des profs avec des blouses grises et tout ça. Enfin,
vous avez choisi de vous souvenir de ce côté gris plutôt du côté pop, coloré, oui. Des deux chevaux ou des dianes que l'on voit dans le livre de Pascal Robert-Diard. Qui, me semble-t-il, est peut-être plus près d'années 70 marquée, qui commence, hein, on est en 68-69, marquée par la libération sexuelle, les cigarettes, même s'il y a une jolie bande-son hein, dans votre livre.
Voilà, alors, je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, les années 70, la fin des années 60, admettons que les années 70 commencent en 68, cette fin des années 60 qu'on associe à raison aussi à la libération sexuelle, une plus grande liberté des mœurs, elle n'empêche pas la violence des sentiments. C'est-à-dire que dans le livre de Pascal, comme dans le mien, on tue, ou on se tue, par amour. Toute liberté, si grande soit-elle, n'empêche pas, ne peut rien contre ça, finalement, cette humanité-là, l'humanité de Gabriel Ruscier,
c'est ce qui est frappant,
sa souffrance.
C'est ça qui est absolument frappant à la lecture des deux livres ensemble, c'est que vous racontez tous les deux une toile de fond qui est cette époque de liberté, voire de permissivité, à côté d'une violence inouïe, la violence aussi de la justice pour Gabriel Ruscier et la violence de cette jeune fille amoureuse, délaissée. Sur cette affaire Gabriel Ruscier, il faudrait que vous nous racontiez un petit peu, Pascal Robert-Diard. D'abord, la raison pour laquelle elle vous obsède, vous. On a compris ce qui pouvait obséder Philippe Ridet dans le crime de 74 à Bourg-en-Bresse. Mais vous, cette enseignante d'une trentaine d'années, folle amoureuse d'un élève de 16 ans.
Écoutez, je crois qu'en fait, si je cherche bien, c'est revenu récemment, j'ai une mère qui est assez féministe et qui avait... Mes parents étaient abonnés à l'Express. Et dans les toilettes de chez moi, ma mère faisait des collages des unes de l'Express. Et je pense que j'ai eu dans les toilettes pendant des années la une de l'Express avec la fameuse photo du film où Girardot incarne François Giroud.
Mourir d'aimer.
Et voilà, ce
film, d'André Cayatte.
Je crois qu'en fait, la vraie histoire commence là. Et puis après, bon, effectivement, moi j'ai travaillé avec Joseph Beauregard, qui est un documentariste qui avait amassé énormément déjà, qui avait retrouvé tous les témoins, et qui à un moment donné avait cette photo du baiser. Cette photo du baiser qui fait la couverture du livre, qui est le baiser échangé entre Gabriel Russier et Christian Rossi. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit qu'il fallait écrire le livre, qu'il fallait écrire l'histoire. En plus, je trouvais que c'était justement complètement hors du contexte de l'année, puisque l'année dernière, on parlait de prédation, de toutes ces histoires d'abus sexuels. Et là, c'est vraiment autre chose. Je pense que c'est une histoire d'amour. C'est une histoire plus compliquée, mais c'est une histoire d'amour.
Est-ce que c'est une histoire qui raconte aussi la façon dont la justice ne parvient pas à saisir son temps, ne parvient pas non plus à comprendre ce qui peut se passer
entre deux personnes. Elle est toujours en décalage. Elle est souvent soit trop en retard, c'est-à-dire qu'elle freine, soit elle épouse. Elle épouse, je pense que par exemple en ce moment, elle épouse beaucoup. Elle épouse beaucoup l'opinion, elle épouse beaucoup l'air du temps. À ce moment-là, c'est très particulier. La société vient de vivre quelque chose qui a fait peur à tout le monde, qui est mai 68. Et cette professeure, qui est une professeure qui veut tout déplacer, qui veut y compris renoncer au Lagarde et Michard, qui veut leur faire découvrir d'autres auteurs, d'autres poètes, etc., qui veut avoir un rapport beaucoup plus proche avec ses élèves, qui descendent de l'estrade. Avant 68, les profs étaient sur l'estrade.
Qui les emmène en week-end,
qui les emmène faire du ski, à la plage. Et qui ensuite va vivre cette histoire d'amour. Cette prof représente, je pense, à ce moment-là, tout d'un coup, incarne cette espèce de danger qu'il va falloir que 68 a soulevé, c'est-à-dire évidemment, en plus, la libération sexuelle et la revendication de la libération sexuelle. Donc, effectivement, elle incarne un danger.
Sur l'affaire Russier, précisément, Yasmina Reza, quelle lecture en faites-vous ? C'était il y a 50 ans, et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle a posé pas mal de jalons et beaucoup secoué la République, cette affaire-là.
Moi, ce que je voudrais... L'affaire Russier, je m'en souvenais, mais sans bien la connaître. Et j'ai aimé beaucoup, dans le livre de Pascal, toute l'ambiguïté qu'elle montre. C'est-à-dire l'ambiguïté de la femme elle-même, Russier. C'est-à-dire une femme enfant. Et quand on lit le livre de Pascal, on se demande qui est le plus enfant des deux, si ce n'est pas elle par rapport à lui. Et tout à coup, il y a une espèce d'éclatement des âges. Et ce qu'on regarde aujourd'hui, on dit à tel âge, on veut sectionner l'être en âge, c'est assez troublant.
Mais c'est vraiment intéressant, parce que ce que dit Yasmina, c'est ce qu'a écrit... presque mot pour mot, mais ça, parce que moi j'en ai donné un extrait, mais il se trouve que cette phrase, elle est dans le Françoise Giroud, dans l'édito de Françoise Giroud, qui écrit en 69...
Édito dur.
Qui est d'une cruauté incroyable. Et ça ne m'étonne pas que la cruelle Yasmina Reza ait adoré la cruauté de Françoise Giroud.
J'ai pas eu raison de l'inviter.
Écoutez, la première fois que j'ai lu cet édito de Françoise Giroud, dans lequel elle dit, mais finalement, elle dit... On ne se suicide pas par amour, mais par manque d'amour.
Ouais.
Et ensuite, elle dit, et finalement, elle pose exactement cette question. Et qui était le plus jeune des deux ? Et si c'était elle le plus jeune des deux ? Parce qu'elle dit, cette phrase formidable, une femme affectivement mûre, eut rusé pour conserver son amant. Et c'est vrai
de ça, je ne suis pas sûre, moi. Soit à quelconque âge capable de ruser pour conserver un amant. Je ne suis pas du tout sûre.
Vraiment cruel, hein. C'est le mot.
Vous trouvez, non.
Vous ne ruseriez pas pour conserver un amant ?
Non, si, j'aimerais. Non, j'adorerais, mais je ne suis pas sûre que l'âge nous permet de le faire. Je ne suis pas sûre qu'on soit capable plus de le faire tard que tôt. Il faut un certain savoir-faire pour ruser. Je voudrais juste dire quelque chose à propos de leurs deux livres, parce que vous avez dit la libération sexuelle. Et le livre de Pascal, oui, montre ça, mais ce qui est très intéressant dans le livre de Philippe, c'est qu'il montre le contraire, c'est les mêmes années. Et chez Philippe, enfin, dans le crime est à moi, il n'y a pas du tout de libération sexuelle. Ils sont tous d'un coincé incroyable. Et j'adore, il y a une phrase que je vais mal citer, pardon, hein, mais tu vas la corriger, où il dit « Étais-je au mauvais endroit ?»
Oui, parce que j'ai l'impression que oui, cette histoire de libération sexuelle s'est un peu arrêtée aux portes de ma ville, comme si, voyant la sortie d'autoroute, on a dit « Bah non, je continue. »
La France entière, droit, enfin,
mais sauf pas la France Bourg-en-Bresse. Entière. Je pense qu'il y a Paris, il y a la France, encore une fois, c'est peut-être la dimension qui, maintenant que le livre est écrit et paru, je peux peut-être en parler avec plus de recul. Et peut-être que ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est aussi sa dimension politique et sociologique. C'est-à-dire que la révolution, elle n'est pas passée partout au même moment. Enfin, peut-être qu'elle est arrivée plus tard, peut-être qu'il a fallu 4 ou 5 ans pour que les choses arrivent à Bourg-en-Bresse. Mais de la même façon qu'à cette époque-là, par exemple, il y avait quand on faisait des surprise parties, par exemple, on écoutait en 72, 73, 74 des chansons qui étaient parues en 69, 70. Les choses vieillissaient moins vite. Donc, d'une certaine façon, elles mettaient aussi plus de... Les films, par exemple. Les films sortaient 6 mois plus tard, voire 9 mois plus tard. On avait le temps d'avoir lu toutes les critiques et tout d'un coup, on allait voir au cinéma un film dont les Parisiens avaient déjà oublié. On ne se rend pas compte de ça, mais la province, c'est un ralentisseur de particules et c'est un endroit, justement, à cause de ça, parce que le temps est peut-être plus lent qu'ailleurs, où on a le temps de plus imaginer sa vie, d'avoir peut-être plus de regrets aussi si on la réussit pas. Enfin, ce livre, je l'en parle un peu maladroitement, mais il essaye de parler de tout ça, quoi, de la difficulté d'être dans une petite ville.
Et on revient au temps, le grand sujet d'Yasmina Reza. C'est une boucle bouclée, presque.
C'est un livre, vraiment un très beau livre sur le temps.
Deux livres en tout cas qui sont à lire presque l'un avec l'autre pour avoir une vision complète de ce que furent ces années entre 1969 et 1974. On arrive à la fin de cette émission, mais juste avant de nous quitter, j'aimerais vous parler de lecture. On en a déjà beaucoup parlé, mais de lecture à voix haute, si vous voulez bien, avec une petite surprise, tiens, pour vous, Yasmina Reza. Si on lisait à voix haute, c'est le titre du concours que nous avons lancé à destination des jeunes. La finale se déroulera au mois de juin, en prime, sur France 5. Et pour mieux pratiquer la lecture à voix haute, eh bien, chaque semaine, des comédiens, des comédiennes offrent des conseils. Ce soir, on a eu envie d'aller chercher un comédien que vous avez dirigé. Je crois que vous l'aimez bien. Il était dans Le Dieu du carnage. Éric Elmosnino vous donne... C'est bon conseil de lecture, écoutez-le.
Ce qui est drôle, c'est qu'on est les... En fait, on est comme un chien d'aveugle, quoi. On est les yeux des personnes qui viennent nous écouter. C'est pas exactement comme si on jouait devant eux. Et à mon avis, d'ailleurs, il faut pas jouer. Il faut juste... ressentir, c'est-à-dire faut être traversé par ce qui se passe en lisant le texte, mais essayer de vous mettre un tout petit peu à distance derrière, quoi, de pas passer devant. Oui, moi j'aime bien ça. Mais alors ça c'est un exercice un petit peu comme ça sans filet. C'est assez marrant, c'est un peu t'as l'impression d'être sur un fil, quoi. Si on laisse entendre, on laisse sentir que c'est une chose qui est très fragile et qu'on peut tomber, alors je pense qu'on est tous regroupés autour d'un moment un peu, un peu unique, quoi. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville. Absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, hein, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas? Elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, Elles attendent le voyageur, tandis que celle-là, l'américaine, elle se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là. Pas baisante du tout, raide, à faire peur. Le mieux, c'est de pas penser, sinon tu le fais pas. Et puis t'essayes de te faire un peu gagner par, par les images que ça procure. Bon, comme lui, il est pas mauvais, t'en as vite des images. Et puis t'essayes de les restituer à l'instant où, où elles te viennent. Tu ne peux parler bien que de quelque chose que tu aimes. Et donc, ne vous laissez pas imposer je sais pas quoi. N'essayez pas de prendre un truc soi-disant joli ou bien écrit ou quoi. Ayez, vous, une connexion avec ce que, voilà, avec ce que vous aurez envie de lire et il se passera forcément quelque chose. Voilà.
Eric Elmos Nino, le dieu du carnage. Vous allez poursuivre la mise en scène ?
Ah oui, j'aimerais bien.
On reprend Anne-Marie Labeauté ?
On reprend
bientôt.
Anne-Marie Labeauté, j'espère, mi-mai.
Espérons-le, aussi.
Ou une autre fois.
L'écriture, la mise en scène, c'est deux choses très différentes. Qu'est-ce que c'est la scène pour vous ?
Ça ressemble. C'est la mise en scène de théâtre, c'est la continuation de l'écriture. C'est autrement.
On en a beaucoup parlé de l'écriture avec Pascal Robert-Diard, Philippe Ridet, évidemment avec vous. Si on devait, pour conclure, même si conclure c'est les bêtises, disait le patron, oui. Dire ce qu'est pour vous, Yasmina Reza, l'écriture.
Non, là, je crains de gâcher la fin de l'émission. Non, je ne vais pas savoir.
Cette chose si importante.
C'est important, mais je n'ai aucune définition sous la main. Il aurait fallu me prévenir.
Et ben voilà. Vous savez quoi ? Les définitions, on les trouvera. Peut-être que c'est ça, d'ailleurs, la littérature, c'est de ne pas avoir de définition, de ne pas avoir de phrases toutes faites, mais de questionner, de reformuler les questions, jour après jour, livre après livre, semaine après semaine. Merci beaucoup, Yasmina Reza, d'être venue. J'espère qu'on vous reverra avant 20 ans à la télévision et sur le plateau de la Grande Librairie. Merci Philippe Ridet, Pascal Robert-Diard. Merci à vous d'avoir suivi cette Grande Librairie. Je rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site France.tv. Vous pouvez même repartir avec les livres de tous nos invités, tous ceux dont nous avons parlé, en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Et puis, vous pouvez l'écouter, cette émission, en balado-diffusion, en podcast, sur toutes les plateformes disponibles. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles lectures. À mercredi prochain. Bonne soirée. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.